En attendant la venue de Ian McDonald qui va arriver d'ici quelques instants, nous allons commencer donc cette rencontre sur le prix européen des Utopiales. Alors, pour revenir un peu sur ce prix, je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne, parce que je ne sais pas si, si vous le savez tous. Tout d'abord, ce soir sera remis le troisième prix européen des Utopiales. La première édition avait couronné un ouvrage d'Alain Damasio aux éditions La Volte, La Zone du Dehors. L'année dernière, le deuxième avait primé un livre de Javier Negrete qui avait été édité par les éditions La Talente, Le Seigneur de l'Olympe. Et ce soir, on va récompenser donc le troisième prix européen. La sélection de ce prix, on a 5 livres qui ont été tout d'abord sélectionnés par une trentaine de libraires en France. Ces libraires ont choisi 5 ouvrages qui sont la crème, selon eux, bien sûr, de la littérature de l'imaginaire cette année, publiée cette année. Alors, je vais faire un petit tour de table pour les présenter tout d'abord. Donc, juste à ma droite, j'ai Alden Kahn pour Vellum, publié aux éditions Lune d'encre. Juste à ma droite, j'ai Stéphane Beauverger pour Le Déchronologue, édité aux éditions de La Volte, qui a eu hier soir le Grand Prix de l'Imaginaire. Juste à ma gauche, j'ai la chance d'avoir Jean-Philippe Jaworski pour Gagner la guerre aux éditions des Moutons électriques, qui a eu déjà un prix littéraire, je crois.
Le prix Imaginaire, oui.
Voilà. Et d'ici quelques instants, nous attendons Ian McDonald, qui lui aussi a été primé hier pour... il a eu le Grand Prix de l'Imaginaire 2010 pour le meilleur livre étranger pour Roi du Matin, Reine du Jour. Alors, on a la chance d'avoir quand même un choix extrêmement éclectique. Tous les genres de la... Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, il y en a un cinquième, pardonnez-moi, de Andrea Sechbar, édité aux éditions La Talente, en panne sèche. Ces 5 livres sont extrêmement différents. Alors, tout d'abord, on a de la fantaisie historique avec vous, Jean-Philippe Jaworski. Vous pouvez en parler un peu, en tout cas du genre littéraire.
Oui, en fait, Gagner la guerre, c'est de la fantaisie, mais pour soigner les faits de réel auprès du public, c'est de la fantaisie très documentée. C'est-à-dire que les sociétés que je mets en scène sont appuyées sur des sources historiques, italiennes, médiévales en particulier, féodales ou communales, et puis des sources aussi turques hein, sur l'Empire ottoman, pour essayer de donner une texture du déjà-vu au public, bien que le monde, lui, soit purement fictif.
Merci beaucoup. Alors, Alden Kahn, vous, par contre, c'est assez compliqué de cataloguer votre ouvrage. C'est un livre expérimental qui est assez difficile à cerner.
Oui. I kind of describe it as a cubist fantasy.
Yes.
Je vais traduire. Je le décris comme une fantasy cubiste.
It's a fragmented, non-linear, the idea being that you see the same story from different angles, from different perspectives, in different universes, as if, like in a cubist painting, you see an object from multiple angles.
Comme dans une peinture cubiste, c'est fragmenté, non linéaire, et on le voit depuis plusieurs angles, plusieurs aspects, points de vue.
Merci. Et donc Stéphane Beauverger, vous, là aussi, c'est une uchronie pirate.
Mais en fait, oui, c'est une. On peut abusivement, un petit peu abusivement, appeler ça une uchronie pirate. Je dis abusivement parce que ce n'est pas un véritable exercice d'uchronie. Il y a des maîtres de l'uchronie. Je ne crois pas pouvoir me permettre d'affirmer que j'appartiens à ce très difficile exercice. Mais comme Jean-Philippe, par contre, j'ai fonctionné sur le même système, c'est-à-dire m'inspirer de faits réels de la grande geste pirate caraïbe en 1640, donc partir d'un point historique très précis qui est la capture de l'île de la Tortue par les Français en septembre, enfin à l'automne 1640, et à partir de là, confronter mon équipage et mon capitaine pirate, Flibustier pour être très précis, à des décrochages temporels, il y a des paradoxes temporels. Donc c'est une dérive temporelle et historique à partir de faits qui ont vraiment traversé les Caraïbes à cette époque.
Merci. Donc je parlerai pour Andreas Esbar, qui lui, donc, pour le livre Entre Peine Sèche, c'est un livre d'anticipation. C'est quasiment un thriller, un livre qui est en deux parties. La première partie donc, se passe de nos jours, donc l'histoire d'un jeune Allemand qui décide d'essayer d'aller vivre le rêve américain. Donc, il va partir aux États-Unis, il va essayer d'avoir la carte verte, la nationalité américaine, gagner énormément d'argent. Du coup, il va essayer de travailler dans les milieux pétroliers jusqu'au jour où le pétrole commencera à manquer. Et là, on va glisser dans l'anticipation. Donc, Andrea, Ian McDonald, qui malheureusement n'est pas là, donc je vais en parler aussi. Alors là, effectivement, on a un mélange assez subtil de fantastique et de fantaisie. Ian McDonald a été très fortement influencé par le folklore irlandais et il en parle quand même, j'espère qu'il en parlera tout à l'heure un peu avec nous. Pour les auteurs étrangers. Pour l'auteur étranger, pardon. Comment sont perçues les littératures de l'imaginaire un peu dans vos pays?
It's I think slightly different from the way it's perceived here. I'm not. It's hard to say because obviously it's I'm projecting onto yourselves. What it seems when you come here that it's got much more respect. That you're the city of Nantes. Puts money into Utopial. Utopial seems very supported, and there seems to be generally more respect culturally for genre.
Donc, il a l'impression qu'il y a plus de respect. Par exemple, la ville de Nantes donne de l'argent. Il y a un festival, donc il y aurait plus de respect pour le genre. Mais il trouve c'est difficile à dire parce que il n'habite pas ici, donc il a sa perspective depuis d'où il vient.
And probably the biggest marker of that would be the difference between comics in the UK and bande dessinée here, where bande dessinée are seen as a completely valid art form, but in the UK, you know, comics are just not.
Oui, une autre différence serait les comics anglais ou américains contre la BD ici, qui est tout à fait reconnue comme forme d'art, tandis que les comics sont beaucoup plus péjoratifs en Angleterre.
Est-ce que en Angleterre et en Écosse, vous avez des prix un peu équivalents? Alors le prix européen des utopiales, est un prix, l'un des rares prix qui récompense surtout des auteurs
non.
Européens.
Non.
Du tout. Définité.
C'est terrible. There's no respect in that level.
Y a-t-il une assimilation de la littérature de genre à la littérature dite blanche en France?
Well, some of the borders are breaking down, and works like Joanna Clark, Jonathan Strange and Mr. Norrell, where works which were science fiction or fantasy can be published as mainstream and are hugely popular. And culturally, I think it's certainly there's less recognition. I think people still are still living with this idea that, you know, if Salman Rushdie writes a fantasy book, you know, it will be called magic realism.
Donc il y a des ponts, par exemple Joanna Clarke qui écrit donc c'est un qui publie dans la littérature générale, mais il y avait quand même des barrières. Et
if Salman Rushdie writes a fantasy book, it will be called magic realism.
Yeah. Ouais, donc si c'est quelqu'un qui fait la littérature générale qui écrit un livre de fantasy, ce sera appelé du réalisme magique plutôt que de le ternir du terme fantasy.
Andreas Esbar n'étant pas là, je vais parler un peu du système allemand où effectivement le livre en panne sèche, son dernier ouvrage publié en France, a été un véritable succès en Allemagne puisqu'il s'est vendu aux alentours de 80 000 exemplaires. En France, on atteint malheureusement, enfin, son éditeur, je ne pense pas qu'il atteigne ce niveau-là, en tout cas sinon ça serait. La littérature de genre, en tout cas en Allemagne, est beaucoup plus assimilée. Les éditeurs sont quasiment les mêmes. On va reparler un peu avec vous, Stéphane Beauverger. Comment vous êtes venu l'idée de mêler un roman d'aventure maritime et la science-fiction?
Si je dois être vraiment très sincère, je pense que c'est parti d'une phrase que j'ai écrite sur un carnet, ce que j'appelle mon carnet à idées. J'ai écrit un navire pirate dont les canons tirent du temps. Et je crois que en fait, c'est parti de là. J'ai trouvé que l'idée était très plaisante. Ça correspondait pour moi à l'envie de me référer à de la littérature. Du grand roman d'aventure picaresque, populaire, tout ce que j'avais lu quand j'étais gamin ou quand j'étais adolescent. Donc je voulais explorer cette veine-là. Et ensuite, étant devenu dans mon cursus d'auteur quelqu'un qui explore d'abord les pistes de la science-fiction ou ce que permet la science-fiction, j'y ai rajouté une notion de décrochage temporel et de paradoxe temporel, mais vécu par un équipage pirate qui voit des choses venir d'autres époques. C'est-à-dire que je voulais faire des paradoxes temporels, mais pas du point de vue du voyageur, mais du voyager. Et c'est à partir de là, à partir de cette simple idée, que je trouvais appétissante, romantique, que j'ai commencé à réfléchir à la manière dont je pourrais raconter une histoire qui utiliserait ces deux notions qui me semblaient pouvoir fonctionner, la grande aventure maritime et le choc des temps. Donc ensuite, ma petite astuce a consisté à remplacer la quête de l'or et la fascination de l'or qui a animé les Espagnols et la plupart des cultures qui se sont installées dans le Nouveau Monde à partir du XVIe siècle, la remplacer donc par une quête d'autre chose, en l'occurrence par des objets appelés les maravillas, les merveilles, des objets mythiques qui viennent d'autres époques, généralement du futur, mais pas forcément. Et ensuite, j'ai essayé de raconter une histoire qui permette de faire fonctionner sur plusieurs niveaux ces différents ingrédients.
L'expression uchronie pirate que j'ai utilisée tout à l'heure définit tel bien le déchronologue?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas certain que ce soit une uchronie. J'ai vu d'autres appellations qui ont été formulées dans des critiques. Le déchronologue a été listé sur un forum qui tente de faire une liste conséquente des travaux uchroniques. Donc je dois y avoir ma place. Ce roman, en tout cas, doit y avoir sa place. Mais je m'intéresse plus à... Enfin, pour parler vraiment d'uchronie, il faudrait imaginer qu'à un moment, on fasse une rupture de faisceau de la trame narrative historique avérée pour ensuite de voir quelle direction prendrait une tangente et en observer les conséquences. Alors là, sur plus ou moins long terme, je reste quand même dans une période de 13 ans qui ne sont les 13 ans de la vie d'un capitaine pirate qui apprend à vivre dans ce monde tourmenté et déchiré par les conflits temporels. Je ne m'intéresse pas à l'histoire avec un grand H et voir comment des déchirures de temps pourraient altérer l'histoire des Caraïbes. Je pars d'un fait historique posé, la capture de l'île de la Tortue par les Français, puis je confronte plus l'équipage pirate à une technologie. Ils doivent même apprendre à utiliser et à maîtriser cette artillerie de temps qui leur a été donnée. Mais je ne m'intéresse pas à ce qui pourrait se passer. Je ne veux absolument pas voir ce qui pourrait se passer un siècle plus tard. Donc c'est à la frange de l'Uchronie.
Indéniablement, votre ouvrage est extrêmement original, en tout cas sur le sujet. Et surtout, vous avez en plus complexifié un peu l'originalité en rendant la structure du texte en elle-même originale, puisque le récit est totalement déchronologique. C'est volontaire de votre part ?
Oui. Non, je me suis trompé en faisant la maquette. En fait,
pour la petite histoire, je suis libraire et je l'ai conseillé à quelques lecteurs, on va dire. Et j'en ai eu un qui est revenu me voir en me disant « Écoutez, il y a eu un problème, il a été mal édité.
» Alors, effectivement, c'est aussi... Dans la conception du livre et la gestation du projet, ça a aussi participé à une difficulté supplémentaire, c'est que comme j'ai construit ma trame de manière... quand j'ai posé mon scénario, je savais déjà que j'allais le raconter de manière déchronologique, donc en mélangeant les chapitres temporellement, chapitre 1, chapitre 16, chapitre 12, chapitre 6, etc. Et l'ensemble du puzzle devait constituer une histoire cohérente. Mais ça voulait dire aussi que pour que mon éditeur puisse faire un retour sur le travail, il fallait absolument que j'évite qu'il lise des versions fragmentées ou fragmentaires parce qu'il allait juste être épouvanté. Donc il ne pouvait concevoir le projet qu'une fois terminé. Ça m'a forcé à prendre, à titre personnel, des gros risques parce que c'est-à-dire se lancer dans 2 ans d'écriture en essayant de maîtriser l'ensemble de ce canevas et ne livrer que le produit fini à Mathias Echenet de La Volte. Et ça me force aussi à prendre cette posture, de dire telle est la forme nécessaire de ce roman, puisque la particularité de l'artillerie temporelle de cet équipage consiste à mélanger les temps sur des zones très courtes et donc à parfois faire subir les conséquences avant les causes. Je vais aussi faire subir ça au lecteur qui, par moment, va lire des chapitres qui sont des conséquences, puis ensuite lira des chapitres qui sont les causes. Donc c'était une petite astuce de narration et de scénarisation qui consistait à essayer, d'une forme métatextuelle, pour utiliser un gros mot, de faire un petit peu ressentir cette idée que les temps sont fractionnés.
Et malgré ça, vous arrivez à ne pas noyer votre lecteur ?
Certains, si. J'ai quand même eu des retours qui m'ont dit « Ah non, mais ça, faut pas, c'est pas bien. » Après, il y a eu des retours qui ont été positifs, heureusement. Il me semble que c'était la bonne façon de le faire. Donc ensuite, c'est...
Finally.
Out. Oui.
Voilà. C'était, non, à mon avis, c'était. Il y a un risque de perdre le lecteur, mais c'était pour moi, c'est la bonne manière de raconter cette histoire-là.
Thank you, Mr. Ian McDonald, for your coming. Jean-Philippe Jaworski, vous, au contraire, votre livre est assez linéaire, très linéaire. Au contraire.
Oui, il est même volontairement linéaire.
Volontairement linéaire.
Mais quand je dis volontairement, c'est vraiment volontairement. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté que dans beaucoup de romans d'aventure, de romans de fantasy, voire de romans de SF, il y a une construction qui est une construction très élaborée qui consiste à alterner les points de vue de différents personnages et à construire ainsi des effets d'attente pour le lecteur. Et comme au bout d'un moment je me suis dit que ça confinait à l'artifice, je me suis dit je vais écrire un pavé, mais un pavé vu d'un seul point de vue, afin que l'action soit toujours perçue par le même personnage. Et il y a un moment où il y a la tentation de dévier sur une deuxième action, et à ce moment-là je joue méchamment avec mon lecteur parce que le narrateur laisse suggérer, laisse entendre au lecteur que peut-être il y a une deuxième action en cours, mais il lui dit très clairement, ça je ne le raconterai pas, parce que j'en ai déjà plein le dos de vous raconter mon histoire, alors je ne vais pas me mettre à raconter une deuxième histoire.
Vous pouvez nous parler un petit peu du royaume ?
Alors, le vieux royaume en deux mots. Le vieux royaume, en fait, est arrivé très accidentellement, parce que je suis un rôliste, donc je pratique le jeu de rôle, et il y a une dizaine d'années, il y avait une polémique sur un forum, un vieux marronnier autour de Donjons et Dragons, des gens qui disaient, à propos de Donjons et Dragons, on peut rien faire que du PMT, du porte-monstre-trésor. Et moi, j'étais pas d'accord, mais plutôt que de rentrer dans un long troll sur Internet, je me suis dit, allez, je vais faire la démonstration qu'avec Donjons et Dragons, on peut faire autre chose que du porte-monstre-trésor. Et c'est là où j'ai d'abord créé un univers de jeu pour du jeu de rôle, pour mes joueurs. Le vieux royaume, il a été conçu, en fait, à partir de clichés pour être clairement identifiable par des joueurs et pour que l'univers paraisse parfaitement familier. Alors, les clichés, c'est des clichés d'origine historique, hein, la cité italienne Renaissance, la commune de modèle flamand, disons, l'état féodal, c'est la société clanique sur le modèle de ce qu'on pouvait trouver en Allemagne autour du 8e, 9e siècle, ou sur le modèle de ce qu'on pouvait encore trouver en Écosse jusqu'à la Renaissance. Et puis je fais donc un univers avec tout ça, et j'ai fait jouer là-dedans. Et au bout d'un moment, il y a mes joueurs qui m'ont dit « c'est super, mais il y a matière à faire plus que simplement un univers de jeu. Il y a un univers littéraire. » Et c'est ça qui est l'origine du vieux royaume. Et j'ose espérer que s'il y a un sentiment de familiarité de la part des lecteurs, c'est précisément parce que c'est conçu pour que le lecteur ait l'impression de s'y retrouver, de se retrouver dans pas une Europe alternative, mais pas très loin, en fait.
Gagner la guerre fait suite surtout à une nouvelle.
Alors oui, effectivement. Gagner la guerre fait suite à une nouvelle où apparaît le personnage absolument infréquentable qu'est le narrateur, hein, celui qui envoie promener son lecteur, Don Benvenuto. À l'origine, c'est un personnage de truand. Alors, dans le recueil de nouvelles qui avait précédé, en fait, je reprenais des clichés, donc, et en particulier, entre autres, des clichés ludiques. Le cliché des classes de personnages. J'ai une nouvelle consacrée aux chevaliers, aux pré-chevaliers, quasiment le paladin. J'ai une nouvelle consacrée aux prêtres. J'ai une nouvelle consacrée aux barbares. Et j'avais une nouvelle consacrée aux truands, dont le narrateur était Don Benvenuto. Alors il lui arrive une histoire sur laquelle je ne reviendrai pas. Et une fois que j'ai écrit cette nouvelle, j'ai certains lecteurs qui m'ont dit « Mais c'est bizarre, pourquoi ce type ?» qui est un assassin professionnel, qui passe ses contrats de façon purement orale par précaution, pourquoi est-ce qu'il raconte son histoire ? Et ça m'a semblé une question très pertinente. Et je me suis dit, mais cette question, on peut y répondre dans un roman, où il va continuer à raconter son histoire. C'était un des points de départ de Gagner la guerre.
Y aurait-il d'autres romans dans ce monde-là ? D'autres nouvelles, il y en a eu ?
Y aura sans doute d'autres romans, mais plus tard.
D'accord. Merci. Ian MacDonald, tout à l'heure je parlais un tout petit peu de votre ouvrage en disant que c'était un mélange subtil de fantastique et de fantasy.
Good afternoon. Sorry for being in the wrong room, but this kind of thing happens. It's kind of hard to talk about King of Morning, Queen of Day because I actually wrote it 20 years ago, and it brilliantly and concisely and absolutely catches a moment in time, which is the 1990s, so it's a little bit kind of out of date now. It's the 21st century. What's it about? It's a story told over three generations of an Irish family. So it's a family saga, and all the main characters are women, and they all share a common genetic trait, in a sense, in that they can interact
Donc avant tout, je suis navré d'être en retard, je m'excuse, j'étais dans la mauvaise salle. C'est difficile un peu de parler de ce livre, déjà parce que je l'ai écrit il y a à peu près une vingtaine d'années, et il capture un peu une époque assez particulière qui était les années 90. Alors, de quoi il parle? En fait, nous suivons, c'est un peu une saga familiale, puisque nous suivons trois générations de femmes irlandaises qui partagent un trait génétique commun.
That was so much more concise than the way. It's great. Yeah, they all have the same ability, which they don't wish for, which is to interact with the source of all human creativity. The thing, the other world, changes name throughout the book, but what it is, it's the place where all our creativity comes from. Where all our myths and archetypes and legends reside and change shape. So it's this kind of other world, collective unconscious, where all the ideas of humanity have ever existed or ever will exist constantly flow in and out of each other. And their gift or curse is that through them, through their subconscious, it's kind of a Freudian fantasy, kind of the energy of the other world breaks through into this world.
Donc, toutes ces femmes partagent la même faculté, c'est qu'elles ont la capacité d'interagir avec la source de toute la créativité humaine. La chose, l'autre monde, le nom change au fur et à mesure du récit. Donc cette source, c'est-à-dire l'endroit dont tous les mythes, les archétypes, la créativité humaine vient. Et c'est à travers peuvent interagir avec cet autre monde, cet inconscient collectif, et donc avec tous les mythes qui ont existé et qui existeront. Donc on peut dire un peu que c'est une fantaisie freudienne en un sens. Et en fait, leur don ou leur malédiction, c'est que en fait l'énergie de cet autre monde peut s'exprimer à travers leur inconscient et briser les barrières.
Yep. And I think the thing that each of these generations of women find is that magic isn't that. True magic, proper magic, or this creative energy is never tame and it's never safe. It is the wild. It is the original wild magic, and it can as easily destroy you as help you, because in a sense, all you do is channel it into the world. I've always been very interested in. For me, there are two types of fantasy. There is the fantasy where people from this world go into the other world. That's great. I like the kind of fantasy because I think it's more dangerous, which is where the other world breaks into this world and it's much more chaotic and anarchic and, I mean, for me, a kind of much kind of richer vein. It's not a safe magic, it's a dangerous magic.
Et donc, en fait, toutes ces générations découvrent l'une après l'autre que cette magie ne peut jamais vraiment être entièrement apprivoisée ou maîtrisée, puisque cette source de créativité, cette énergie est toujours en bouillonnement. C'est la magie sauvage originelle, en fait, qui peut aussi bien vous détruire que vous aider. Pour moi, il y a un peu deux types de fantaisie. En fait, il y a la fantaisie où les gens de notre monde vont dans un monde secondaire, mais il y a aussi l'autre, l'inverse, qui est où l'autre monde fait irruption dans le nôtre. Et j'avoue que c'est une veine que je préfère parce que je la trouve plus riche, elle est plus chaotique, plus anarchique et surtout elle est plus dangereuse.
C'est un ouvrage que vous avez quand même écrit effectivement il y a une vingtaine d'années. Est-ce très différent de ce que vous écrivez actuellement? Au niveau style, au niveau du genre, parce que vous avez fait de la science-fiction et un livre de science-fiction vient juste d'être publié en France, d'ailleurs, au Brésil.
Yeah. Yes, it is odd because I am a science fiction writer. This is the only fantasy I have ever done. So it's kind of ironic in a way. It's funny. I mean, my style changes for every book. For every book I do, I have to find the right voice for it. And once I've got the voice, then I'm happy with it. At the moment, the kind of books I'm writing, I'm just finished what I call the New World Order trilogy, which is kind of science fiction set in the countries that will kind of become big powers in the 21st century. So there's one called River of Gods, which is coming out from Denoel next year, which is set in India. in 2047. Brazil is set in Brazil, as you might imagine, which is out from Brajlon. And I've just delivered a book called The Dervish House, which is set in Turkey in about 2027. So that's the kind of thing I'm writing at the moment. But I've finished that kind of stage of my writing, finished, and I'm now kind of moving on to something else. So I have a few ideas I'm working on. I've got another fantasy idea, I've got a kids' book idea, and I've got a mainstream novel idea, which actually won't be too mainstream at all.
En fait, c'est bizarre parce que en réalité, je suis plus un auteur de science-fiction. Ce livre-là, c'est un peu le seul livre de fantasy que j'ai écrit, donc c'est un peu ironique. Pour le style, c'est assez amusant. En fait, le style change à chaque livre. Pour moi, j'ai besoin de trouver la bonne voix, la voix qui correspond au récit. Une fois que je l'ai trouvé, alors je suis content et ça va, je peux y aller. Là, sur les projets, je viens de terminer la trilogie New World Order, qui donc décrit les évolutions de notre monde moderne. Donc c'est clairement un décor de science-fiction. Brésil, évidemment, se déroule au Brésil. Je viens d'en terminer un qui se passera en Turquie en 2027. J'ai terminé en fait cette saga-là, et là je sais que je vais passer à autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être j'ai des idées pour la jeunesse, peut-être j'ai aussi une idée de d'autres romans de fantasy, ou carrément passer dans la littérature blanche pour créer un roman de littérature blanche, mais qui en fait ne sera pas vraiment complètement du mainstream.
En tout cas, cet ouvrage, Roi du matin, Reine du jour, est un ouvrage clairement fantasy, et surtout qui était, je pense aussi, pensé comme un hommage à l'Irlande.
I thought it was being thought and conceived as a tribute to Ireland. Oh.
Yeah, yes it is. It's there's a great debate in science fiction at the moment, particularly in the Anglo-Saxon world, about cultural appropriation, whereby people like me, who kind of set their books in other cultures like India or Brazil, you know, it's considered as somewhat an immoral or a kind of a semi-imperialist thing to do, and it's a bad thing, kind of culture appropriation. Now, everybody borrows Irish culture. Everybody writes about it. No one ever says, oh, well, it's obvious appropriation of Irish and Celtic culture. And in a sense, that was kind of at the back of my mind 20 years ago when I kind of set around writing it. You know, it was, I'd seen quite a lot of American writing on the subject, and I thought, well, you know, I live here. You know, I've at the time I was growing up through Northern Ireland's troubles and all that. And I thought, okay, well, I will write my own kind of Irish fantasy trilogy and try to sort of look at the ways in which the tropes of Celtic mythology, how they're changing with time. Because what's interesting for me is how mythology changes, you know, how each generation adds something to it, and it continually evolves and turns into something new and fresh and relevant.
Oui, c'est vrai. Il y a un grand débat dans la science-fiction en ce moment, dans le monde anglo-américain, qui est le débat de l'appropriation culturelle, où on a beaucoup d'auteurs américains, par exemple, qui écrivent des livres qui se déroulent dans la culture indienne, brésilienne, etc. Et c'est considéré par beaucoup comme immoral et comme impérialiste, comme une appropriation de la culture de ces peuples-là. Seulement le fait, c'est que tout le monde s'approprie la culture irlandaise. Ça pose de problème à personne. Donc je pense que j'avais un peu ça un peu à l'arrière de mon esprit, un peu en fond, il y a 20 ans quand je me suis mis pour écrire ce livre, puisque bon, il y a beaucoup d'Américains par exemple qui écrivent sur la culture irlandaise. Bon, en ce qui me concerne, moi j'y vis en Irlande, j'ai grandi pendant les troubles de l'Irlande du Nord, etc. Et je me suis dit que j'allais écrire ma propre veine de fantasy irlandaise, et ce qui m'intéressait notamment, c'était de regarder la façon dont les tropes de la mythologie, des mythes celtiques, irlandais, etc., changent, et la façon dont chaque génération ajoute à ce corpus.
Se réapproprie les mythes.
Reappropriating.
Yes.
Oui.
Haldan Khan, votre ouvrage est assez complexe, vous l'avez dit très bien, vous l'avez. J'aime beaucoup ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur une science-fiction, un livre, une, fantasy cubique. J'aime beaucoup. Pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus?
The idea is that you have, you know, Michael Moorcock's multiverse.
Yeah.
Wait. I think I tried to approach that from a more formalized approach to say, okay, well, there's if you look at it as three dimensions, rather than just a chaos of different universes, to say there are three dimensions of time, forward and backward. The future and the past.
Oui, alors d'accord, je vais expliquer. Alors, si vous connaissez les multivers de Moorcock, je vais essayer une autre approche. Donc, plutôt que d'avoir les trois dimensions, il y avait trois dimensions de temps, en avant, en arrière.
Then you have side to side of alternate realities, parallel worlds.
Des mondes parallèles, des réalités alternatives.
And then the realities which are different in mythological or metaphysical ways are up and down.
Et verticalement, c'est des mondes métaphysiquement différents, la dimension métaphysique.
So my approach was to say to take the story and tell parts of it in the front, parts of it in the future, parts of it in the past, parts of it in alternative reality, and parts of it in mythological reality. So that ultimately these parts come together into a story which takes place around the multiverse and exactly where the reader is here and now.
Donc le but c'était de raconter cette histoire en utilisant tout cet espace. Donc on a dans le futur, dans le passé, dans les réalités alternatives et dans l'espace métaphysique pour que tout le récit se déroule dans le monde en entier, les trois dimensions du temps.
Donc, dans ce multivers, on va avoir donc un conflit entre deux entités qui peuvent s'appeler Dieu, des anges, on ne sait trop.
There are humans, human beings, who have discovered what is ultimately the programming language of reality. I've invented language called the Kant, which you can use to rewrite reality, including yourself.
Donc il y a des humains qui ont découvert le langage de programmation, en quelque sorte, de la réalité, qui s'appelle le Kant. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et puis, ils peuvent même être utilisés pour réécrire la réalité, y compris soi-même.
So they, having because they are able to rewrite themselves, they can have immortality, they can sort of transcend the flesh, they act like the gods, like gods and angels, and present themselves as gods and angels, but the idea is that, no, they're not really. They are really human beings who have ascended, but in a hubristic way.
Des entités qui ont assimilé la réalité du vélum.
Je vais traduire d'abord. Donc, en utilisant ce langage de programmation, ils peuvent se présenter et devenir immortel, transcender la chair, et puis se présenter aux autres comme des anges ou des dieux. Mais en fait, ça reste des êtres humains, au fond.
Qui ont compris l'essence du vélum.
Oui.
Il nous reste quelques minutes. Je vais en profiter pour passer dans le public. Si vous avez, vous, des questions. En tout cas, je tiens à remercier tous les auteurs présents. Vous avez tous écrit de magnifiques ouvrages. Et je vous invite tous, tous les lecteurs présents, à les dévorer le plus vite possible. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions ? Soyez pas timide.
What do you want to drink is always a good question.
Qu'est-ce que vous voulez boire est toujours une bonne question.
Je vous remercie.
Merci bien.